Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Attaquant, Karim Benzema.
Moussa Moulek.
Attaquant, Karim Benzema.
Soccer Love.
Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. No leave. Leave what? No leave. Leave what?
Ooh. Le Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette.
Soccer love is amazing.
Attaquant, Karim Benzema.
Moussa Moulek.
Attaquant, Karim Benzema.
Bonsoir, chers auditeurs, chers auditrices. Bienvenue à Soccer Sport tous les lundis soirs, 20h, 21h sur les ondes de CFAC. Le 88,3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke. Wissam Benstein en ondes avec vous pour la prochaine heure au micro. Donc, cette semaine, on a beaucoup de bons contenus pour vous. On va commencer d'ailleurs l'émission. En fait, on va attaquer l'émission avec Sève Janel. Sève Janel, c'est l'entraîneuse en chef de l'équipe de l'Université Bishops de Cheerleading. On parle avec elle cette semaine. C'est une entrevue que j'ai réalisée plus tôt la semaine dernière. Une entrevue environ d'une trentaine de minutes. Donc, on remercie Sève Janel et les personnes aux communications de l'Université Bishop pour nous accorder leur temps. Vous allez en apprendre plus sur le sport de cheerleading, sur comment ça fonctionne. Est-ce qu'on peut vivre de ça? Quel est ce sport? Comment fonctionnent les compétitions? Est-ce que c'est juste un sport de filles? Est-ce que c'est juste un sport de gars? Qui peut y participer? Est-ce que c'est populaire? Etc., etc., etc. Et également, on va vous parler des actualités universitaires dans le monde du sport, puisqu'il y avait des matchs universitaires côté RSEQ la fin de semaine dernière. On avait notamment certains carabins contre les Patriotes de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et vous savez, la saison de soccer masculin universitaire bat son plein à l'heure actuelle. Donc, on va vous donner les résultats tout de suite de ce qui s'est passé dimanche dernier dans le monde du soccer. On va y aller même avec vendredi dernier. Donc, on a plusieurs matchs à vous commenter. Vendredi, le 22 septembre, Laval contre Concordia, 2-1 Laval. McGill, 2-0 contre Sherbrooke. Montréal, 1-0 contre UQAM. Laval, Sherbrooke, 1-1. Ça, c'était hier. Également, on a eu McGill qui perd contre Concordia, 1-0. Et les Carabins de l'Université de Montréal qui battent Trois-Rivières 3-2. Et qu'est-ce que ça donne au classement? Eh bien, Montréal premier, 19 points tout simplement, avec la légende Pat Raimondo, l'entraîneur qui est là depuis plus de 20 ans. 6 victoires, un match nul, 19 points. Deuxième, Trois-Rivières, 12 points. Troisième, Laval, 11 points. Quatrième, UQAM, 10 points. C'est la dernière équipe qualifiée à l'heure actuelle, la quatrième équipe. Concordia, 5e, 8 points. McGill, 7e. Sixième, 7 points. Et Sherbrooke, dernier, 7e avec un petit point. 6 défaites, un match nul pour le vert et or de l'Université de Sherbrooke contre la troisième équipe au classement, là, le rouge et or de l'Université de Laval. Ça fait, vous le savez, des années que j'ai cette émission-là ici à CFAC. On remercie d'ailleurs toute l'équipe CFAC. Et ça fait très longtemps que je demande des entrevues avec des membres de l'équipe sportive du vert et or, soccer particulièrement. Je vais pas mettre les autres dans le même panier, mais je ne reçois jamais de réponse. Ou quand j'en reçois, on me redemande de contacter plus tard pour ensuite ne pas répondre à mes courriels. Donc, il n'y a pas de problème. S'ils ne veulent pas partager ce qui se passe, ils ont tout à fait le droit, hein, aucune obligation de partager avec les médias. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on me dit que oui, pour ensuite me dire que non. Mais en tout cas, vert et or, 7e et dernier au classement de soccer masculin. Soccer féminin, The Women. On va vous donner les matchs qui sont passés. Il y en a plus. Il y a 8 équipes et une équipe de plus à cause de Bishop's University. Et donc, Laval 2 contre Concordia, McGill Sherbrooke 0-0, les Carabins contre les Citadins de l'UQAM 3-0 pour les Carabins, Bishops bat Trois-Rivières 1-0, Laval bat Sherbrooke 6-0, McGill bat Concordia 1 à 1. Pardon, McGill Concordia 1 à 1. Ils ne peuvent pas les battre si c'est un match nul, évidemment. L'UQAM bat Bishops 2 à 1. Et Montréal 8, Trois-Rivières 0. J'étais là à ce match-là. C'était évidemment les Carabins. C'est une puissance dans le soccer féminin, on le sait. Et 8 à 0, là, c'est toute une claque. Classement, qu'est-ce que ça donne au soccer féminin? L'Université Laval, 21 points, premier. Deuxième, Montréal avec 19 points. Troisième, McGill, 12 points. Quatrième, Concordia, 9. Cinquième, LUQAM, 8 points. Sixième, Sherbrooke, 8 points. Septième, Université Bishops, 6 points. Et huitième et dernier, Patriot de l'Université du Québec à Trois-Rivières, 4 points. Une victoire, un match nul et 6 défaites, malheureusement. Ça me fait un peu de peine parce que Durnick Jean nous a donné une entrevue il y a quelques semaines et honnêtement, là, de toutes les personnes avec qui j'ai fait des entrevues, la très grande majorité sont super agréables et c'est le fun de faire des entrevues. Mais Durnick Jean, ça va au-delà de ça. C'est quelqu'un d'extrêmement gentil et je suis déçu pour son équipe, malheureusement, qui ont seulement 4 points en 8 matchs. Ils sont à 5 points d'une place en série, puisque le quatrième a 9 points. Donc, c'est pas encore joué, là, mais ça va être difficile pour les Patriotes de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Puis également, une chose que je comprends pas, là, je me lâche lousse aujourd'hui, en ce lundi soir, mais... moi, quand une équipe mène 4-0, 5-0, puis que je vois que l'entraîneur joue contre une équipe qui est beaucoup plus faible que son équipe, de loin, que ce soit par les moyens, que ce soit par la taille de l'université, que ce soit par les joueurs, ou les joueuses, et que le coach critique des décisions d'arbitre pour un carton jaune alors que tu mènes 4-5-0, surtout là, quand c'est pas une action de jeu dangereuse, là, je parle évidemment, et que tu célèbres les buts de 5-0, de 6-0, de 7-0, de 8-0, de 9-0, de 10-0, je trouve ça un peu très ordinaire parce que je pense que ça prend un peu d'humilité. On sait que si tu bats une équipe par 9-0 ou 11-0, c'est parce que il y a un écart entre les deux équipes. Et la moindre des choses, c'est quand même de faire preuve d'un peu be humble un peu, hein, soit d'être un peu humble et de ne pas célébrer quand la victoire est acquise et que tu as un des meilleurs effectifs au pays. Donc ça, c'était juste un petit commentaire. Je veux viser personne, là. Ça peut toucher la Ligue de l'Ontario, la Ligue de l'Ouest, la Ligue des Maritimes, la Ligue du Québec. Je ne dirai rien de plus là-dessus. Également, on va parler très brièvement, là, soccer du CF Montréal. Le CF Montréal a mangé la fessée samedi soir contre Atlanta United. C'était pas surprenant, puisqu'Atlanta est une meilleure équipe que le CF Montréal. Et le CF Montréal est une très mauvaise équipe à l'extérieur de la maison. Et à domicile, le CF Montréal est une très bonne équipe. Et donc là, juste pour vous prouver ça, là, Montréal à l'extérieur de la Ligue, c'est avant-dernier. Et avec 9 buts marqués en 15 matchs, 2 matchs nuls, 2 victoires et 11 défaites, 9 buts marqués, c'est la deuxième pire attaque de toute la Ligue à l'extérieur. Et en termes de défensive, le CF Montréal a encaissé 35 buts à l'extérieur cette année et c'est la pire attaque de loin, la pire défense, pardon, de loin à l'extérieur. Donc, c'était pas surprenant que la fessée allait venir du côté d'Atlanta. Atlanta qui est une bonne équipe. Atlanta à domicile, c'est 41 buts marqués en 16 matchs. Fait que eux, Connor McDavid, ils en ont rien à cirer puisqu'ils marquent leur but sans lui. Mais par contre, à domicile, pour revenir à nos moutons, là, le CF Montréal à domicile, ça a de la gueule. 21 buts marqués en 15 matchs, 9 victoires, 2 matchs nuls, 4 défaites pour un total de 29 points. Et qu'est-ce que ça donne maintenant pour le CF Montréal? Eh bien, à l'heure actuelle, mesdames et messieurs, le CF Montréal à l'heure actuelle est 8e. Et on sait que les 8e et 9e dans l'Est vont s'affronter pour un seul match, le 8e qui reçoit ce match-là. Donc, si le CF Montréal termine 8e, on va recevoir un autre match à domicile dans les playoffs. Parce que le CF Montréal, c'est presque mathématiquement impossible que le CF Montréal finisse 7e. Et le CF Montréal est à, je vous dirais, là, 3 points de la zone d'exclusion des séries éliminatoires. Mais le CF Montréal a 11 victoires. Et c'est le premier critère en cas d'égalité de nombre de points. Et après ça, l'équipe les équipes qui se battent pour une place en série, l'équipe avec le plus de victoires, c'est 9. Donc le CF Montréal, en cas d'égalité de points, là, serait quand même très avantagé. Donc je pense qu'on va faire les séries. Prochain match, c'est samedi prochain du côté d'Orlando. Puis pour être honnête avec vous, je pense que le CF Montréal, étant donné les circonstances, l'effectif qu'on a et surtout l'absence de Romel Kyoto, qui est de loin notre meilleur joueur offensif, qui l'année dernière a marqué 15 buts, 5 passes décisives, donc décisif plus qu'une fois tous les deux matchs, blessé. On fait une saison correcte. C'est pas une bonne saison, c'est pas une saison à chier, c'est une bonne saison. En termes de classement, je vous dirais c'est bien. En termes de jeu, c'est moyen. C'est moyen, avec autant de changements dans l'effectif. Georgi Mihailovic qui est parti, Alistair Johnson qui est parti, Kay Kamara qui est parti. Et quand on regarde nos joueurs offensifs avec le CF Montréal, le seul qui a déjà prouvé qu'il peut marquer plus que 15 buts régulièrement une saison, au moins du moins une grosse saison, c'est Romel Kyoto. Un vrai numéro 9, un vrai attaquant. Et en plus, c'est un joueur qui peut déséquilibrer. C'est un joueur qui peut passer les coups francs, les penalty kicks, tout ça, il peut prendre ça. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner pour le CF Montréal. Mais prochain match, c'est contre Orlando City. Et puis, ça va se passer le 30 septembre. Ça, c'est samedi soir prochain, mesdames et messieurs. Orlando, d'ailleurs, que son dernier match, ils ont fait match nul 1-1 avec l'Inter de Miami, sans Lionel Messi. Donc, les carottes sont cuites pour nos amis de Miami, parce que Messi n'était même pas sur le banc. Et en plus, ils ont eu 3 blessures, là. Taylor, une blessure, et Kristoff, une blessure également. Donc, voilà. Maintenant, on va y aller, on va lâcher ça, le soccer, puis on va aller avec notre invité spécial de la semaine. J'ai nommé Sève Janelle, coach et entraîneuse de l'équipe de cheerleading de l'Université Bishop. On écoute ça et on revient plus tard dans l'émission. Donc, chers auditeurs, chers auditrices de CSM, on est avec coach Sève Janelle, coach de l'équipe de cheerleading de l'Université Bishop à Knoxville. Sève, comment ça va aujourd'hui?
Allô, ça va super bien. Je suis vraiment excitée de faire l'entrevue. Je pense que c'est intéressant de parler de cheerleading plus ouvertement.
Excellent. Ben, c'est pour ça qu'on te reçoit. On veut faire découvrir ton sport également. Être coach de cheerleading, qu'est-ce que ça implique aussi. Donc, merci de ta présence.
Ça fait plaisir.
Donc, on va commencer. On veut en savoir plus sur le cheerleading, mais avant, on veut en savoir un peu sur toi. Donc, je demande tout le temps à mes invités une mini-biographie, c'est-à-dire t'as grandi où, tu viens d'où, ta passion pour le sport, t'es venu d'où, etc., etc., etc.
Parfait. En fait, moi, je suis née à Saint-Hyacinthe, j'ai grandi à Granby, j'ai fait mon université à Ottawa, puis je suis rendue à Sherbrooke, fait que je me promène beaucoup. J'ai 29 ans, je suis aussi ostéopathe, donc le cheer, c'est un side pour moi. Ma passion vient vraiment du fait que je trouve que le sport est incroyable, puis il m'a apporté tellement de choses dans ma vie, autant professionnelle que personnelle, qu'en tant qu'athlète. Je trouve que le cheerleading, c'est vraiment complet comme sport. Il y a vraiment beaucoup d'aspects puis de compétences qui peuvent être développées à travers le sport. Il y a aussi le fait que je me suis fait beaucoup d'amis à travers les années dans le sport. Fait que il y a toujours un attachement amical aussi qui vient de ça. J'ai fait 13 ans de cheerleading compétitif. C'est ma 6e année d'entraîneur. C'est ma 3e année à Bishop. Puis c'est pas mal ça. Je pense que ça résume bien.
Excellent. Très bonne introduction. Merci beaucoup. Quand tu dis que tu étais entraîneur à Bishop, ça veut dire qu'avant, tu entraînais le cheerleading dans une autre place?
Oui. En fait, j'étais entraîneur aussi à ProCheer, qui est l'association civile de cheerleading à Saint-Hyacinthe.
Excellent. OK, cool. Donc, tu dis que tu as fait ça. Donc, tu dis Saint-Hyacinthe, Granby, Sherbrooke. Ton secondaire, tu l'as passé où, en gros?
Granby,
OK. Donc, tu connais chez Ben, j'imagine.
Ah oh, oui.
Est-ce que tout le monde connaît ça là-bas?
Oui, c'est assez bien connu.
Oui, c'est très bon. OK, donc maintenant, retour au cheerleading. Donc, OK. Maintenant, tu l'as dit, ta passion pour le cheerleading, ça devient bon parce que t'en as fait, t'as rencontré des personnes là-dedans. J'aimerais savoir qu'est-ce que exactement le cheerleading, c'est quoi pour quelqu'un qui connaît rien? Parce qu'on connaît ça, je pense, par rapport au football américain. Ça, c'est mm-hmm. les cheerleading, ceux qui sont sur les lignes de côté, hein. C'est
oui.
Ça. OK.
Mais en fait, le cheerleading a vraiment évolué, là, à travers les différentes années. Et au départ, c'était vraiment je veux pas dire un demi-sport, là, parce que c'est pas vrai, là. Mais, tu sais, c'était vraiment plus associé avec le football, puis les sidelines, puis les encouragements et tout le kit. Puis, un jour, c'est vraiment devenu un sport à part entière avec les stunts qui sont, en fait, quand on lève les gens dans les airs. Ensuite de ça, il y a un aspect gymnastique. Fait que gymnastique au sol, tout ce qui est ligne de tumbling à travers le sol. On a aussi un aspect qui est danse. Fait que ça aussi, ça peut être intéressant pour certaines personnes. Puis on a un aspect saut qui est plus... c'est qui est moins, de moins en moins présent dans le sport, surtout au côté universitaire, puis... mondial, là. Il y a de plus en plus de catégories qui les enlèvent. Mais c'est ça, fait que ça regroupe vraiment plusieurs compétences, okay. Je pourrais dire. Fait, on a autant des athlètes qui viennent d'un background de gymnastique que des athlètes qui viennent d'un background de danse, que des athlètes qui viennent juste « moi, je suis bon pour m'entraîner, peux-tu me montrer à lever des filles?
Okay. »
Oui. Fait c'est ça qui est le fun aussi avec le cheer, c'est que c'est super inclusif. Fait que tout le monde peut participer, puis tout le monde peut partir de rien puis devenir un athlète très compétent en cheerleading parce qu'il y a tellement d'aspects puis il y a tellement de possibilités dans le sport que ça permet de développer un athlète relativement bien.
Okay. Excellent. Puis quand tu parlais de sauts que tu disais que c'est plus, il y en a pas beaucoup à l'université. On parle de quoi? On parle de personnes qui sautent tout seuls dans les airs ou c'est?
Ouais. En fait, il y a plusieurs figures de sauts, là. Quand on regarde, exemple, une compétition de gymnastique sur la poutre puis qui saute avec les jambes écartées ou en split ou, c'est pas la même chose parce que c'est pas les mêmes sauts, mais ça ressemble un peu à ça. C'est vraiment juste, les gens sautent. Puis okay. Soit qu'ils gardent les jambes ou soit qu'il y a une jambe en avant, une jambe en arrière. Okay. Mais c'est ça.
OK, excellent. Puis bon, j'ai quelques mythes pour toi par rapport au cheerleading. J'imagine qu'ils sont tous faux. Là, ça vient pas de moi directement. Là, c'est juste pour qu'on fasse un peu la jasette. Premièrement, est-ce que c'est un sport qui est seulement ouvert aux filles? Mythe numéro un, en fait, c'est que pour les filles et les femmes.
Absolument pas. Absolument pas. De plus en plus, on cherche des hommes puis des athlètes masculins qui veulent participer au cheer parce que ça augmente vraiment le calibre d'une routine juste parce que ça augmente la puissance puis ça augmente le calibre.
OK. Sur ton roster... Donc, ton équipe, vous êtes combien en tout? Ça, c'est une autre chose.
Cette année, on est 22.
Puis sur les 22, est-ce que les 22 participent aux compétitions ou il y en a en backup?
J'en ai en backup.
En backup. Fait que dans une compétition, il y en a combien, mettons, qui participent à une compétition?
Ben là, pour mon équipe, en ce moment, cette année, c'est pas déterminé encore.
Okay.
On est encore en essai de voir qui va faire le meilleur fit. Mais une équipe de cheer, en général, peut aller de 12 à 36 athlètes.
12 à 36. OK. Puis tu m'as dit 22, c'est ça? C'est ça
oui.
Que tu m'as dit? Bon, sur tes 22, il y a combien de femmes, à peu près?
21.
21, OK. Fait qu'il y a juste un gars.
Oui.
OK. Donc, tu lances un appel.
Oui.
L'Université Bishops à Lennoxville recrute des hommes pour le cheerleading. Si ça vous intéresse, chers auditeurs, on est à Montréal, mais on ne sait jamais.
Okay. On croise les doigts pareil.
Le quoi?
On croise les doigts pareil.
On croise les doigts, OK. Donc, seulement un gars. Est-ce que, là, je fais une petite parenthèse, à l'Alliance de Montréal, l'équipe de basketball, il y a des spectacles à la mi-temps. Les filles qui font, ben, il y a des gars aussi. Est-ce que c'est du cheerleading, ça? Ou t'es pas familière?
Je vais pas te dire.
Okay.
Je suis pas au courant de l'alignement puis de ces spectacles-là. Fait que je veux pas m'avancer parce que je connais pas ça.
OK, parfait. Donc, on va changer de sujet. autre mythe, ça, je sais pas s'il est vrai ou pas. Pour faire du cheerleading, il faut être fit et en bonne santé et flexible et fort.
La flexibilité, non. Non. Mais c'est sûr qu'on recherche des athlètes qui ont un certain niveau d'athlétisme juste parce que c'est quand même un sport qui demande beaucoup de coordination puis de la force musculaire. Moi, je dirais que tout le monde est le bienvenu tant qu'il y a une certaine progression. Fait que, c'est sûr que si tu n'en as jamais fait, je te commencerai pas avec les niveaux élites ou les éléments plus difficiles juste pour ta sécurité puis pour la sécurité des autres personnes avec qui tu fais le sport. Fait que, tant qu'il y a une progression, je pense que tout le monde peut participer au cheer.
OK, parfait. Je comprends tout à fait. OK. Et très bonne question, tu fais vraiment bien ça, Sève, là. Je suis très content de t'avoir en entrevue, merci. Bon, petite parenthèse, je veux revenir à ce que tu as dit tantôt, Sherbrooke. Donc, tu dis que t'es pas de la région de Sherbrooke. Moi, j'aime ça, les petits détails croustillants. Comment est-ce que tu es arrivé là-bas? Est-ce que tu as envoyé un courriel aux Gators, tu as dit je suis disponible pour faire du cheerleading? Est-ce qu'ils t'ont contacté? Comment est-ce qu'on devient coach de cheerleading d'université? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup.
Non, puis mon histoire est vraiment random, là. Écoute, je travaillais chez FedEx, puis il y a une fille avec qui je travaillais là pendant la pandémie qui faisait partie de l'équipe de hockey féminin à Bishop. Puis j'étais comme, ouais, moi je fais du cheer. Puis elle dit, ah, il cherche une coach à Bishop. J'étais comme, OK, ben ouais, OK, je peux envoyer mon nom. Puis finalement, 3 semaines après, c'était moi la head coach. Fait que ça a été vraiment de la chance, je pense. Je pense pas que, tu sais, j'aurais pas cherché pour cette job-là ou j'aurais pas essayé de.
Okay.
C'était juste comme, c'est arrivé de même, puis j'ai fait OK.
Tu l'as pris. OK. Puis t'es peut-être sur le plus beau campus universitaire au Québec, là, honnêtement.
Oui, c'est vraiment un beau campus à Bishop.
C'est beau, c'est très beau, à Lennoxville. Puis maintenant. Deux petites questions côté un peu financier, hein, parler d'argent. Tes athlètes qui jouent avec toi, est-ce qu'elles peuvent avoir des bourses, comme par exemple au football, basket, ou c'est plus compliqué?
C'est plus compliqué. Okay. Je dirais que la situation à l'universitaire est différente pour chaque université, puis chaque université a ses propres défis, puis ses propres, c'est ta propre situation. Nous, à Bishop, on est une équipe vraiment récente. Fait on n'a pas beaucoup d'alumni, on n'a pas beaucoup de. Il faut faire du fundraising, puis tout le kit. Fait que les bourses, c'est vraiment moins accessible pour nous pour le moment. Mais je dirais qu'ailleurs, au Canada, il y a beaucoup d'universités là, qui offrent des bourses pour le cheer, aux États-Unis aussi, quand c'est des programmes qui, ça fait plus longtemps qu'ils sont établis.
Oui.
Puis qui ont plus un bassin de gens qui ont gradué, qui ont déjà fait partie de l'équipe, qui maintenant offrent des sous à l'équipe pour que ça continue à grandir. Okay. Nous, personnellement, on n'est pas rendus là. Puis je connais pas la situation pour les autres universités, mais à Bishop, c'est comme ça.
OK. Est-ce que très, très bonne réponse. Puis pour faire un peu faire du pouce sur ce que tu dis, le pays numéro un au monde pour le cheerleading, c'est les États-Unis? C'est de là que ça vient ou?
Je pense. Historiquement, okay. Je connais pas l'histoire exacte du cheer, là, mais il me semble que ça venait des États-Unis. Puis ça s'est répandu, mais je mettrai pas ma main au feu.
OK. Puis est-ce que vous en faites pour les parties de football masculin de l'équipe?
En fait, à Bishop, pour l'instant, non. Je sais que les autres universités québécoises en font. UQAM, je ne sais pas, mais Carabin, Rouge et Or, Vert et Or en font.
UQAM n'ont pas d'équipe de football.
Hein? Ah, bon, tu vois.
Ils n'en font pas, c'est sûr.
Pas mon université.
Ouais.
Bref, ça règle le problème. Je sais que les autres universités le font. Nous, pour l'instant, ça n'a pas été encore instauré. Mais tout ça, ça vient avec toute la préparation d'été là, que nous est plus difficile parce que nos athlètes viennent d'un peu partout au Canada. Fait que de faire venir nos athlètes l'été pour pratiquer pour des danses ou pour des chorégraphies pour les matchs de foot, c'est vraiment plus difficile parce que, bon, j'ai des filles qui viennent du BC, j'ai des filles qui viennent des Maritimes, j'ai des filles qui viennent de l'Ontario. Fait que de rassembler tout le monde, on est dans le processus d'un jour se rendre là. C'est juste que l'équipe est vraiment nouvelle. Fait que pour l'instant, on se concentre plus sur nous puis sur performer pendant les compétitions pour améliorer notre image puis la qualité de nos performances.
Excellent. Ça, c'est un nouveau programme. Tu viens de le dire. Je pense que cette réponse-là va revenir tantôt pour une question que j'ai pour toi après. Dernière question, un peu côté technique, administratif. C'est un peu personnel. Si tu veux pas répondre, il n'y a pas de problème. Est-ce que... Je parle avec des coachs universitaires de d'autres sports là. Est-ce que coach universitaire de cheerleading, est-ce que c'est suffisant pour vivre que de ça à l'heure actuelle dans ton cas ou tu dois faire d'autres choses?
Non, c'est pas
suffisant. Ok, parfait. Peut-être qu'un jour ça le sera par contre.
Peut-être. Pour l'instant, je suis confortable avec ma situation.
C'est ça, c'est une passion aussi, fait que.
Oui, c'est ça. Je l'ai jamais fait pour l'argent, puis.
C'est bon. Excellent. Puis maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment est-ce que ça se passe, les pratiques? C'est combien de pratiques par semaine? Ça se passe où? Ça dure combien de temps? C'est quoi l'horaire, en fait, votre horaire de coach?
Fait, nous, à Bishop, on a deux pratiques de stunt par semaine de 2 heures. Puis on a une pratique de gymnastique de 1 heure et demie par semaine. Puis, on demande aux athlètes d'aller 2 fois au gym 1 heure par semaine. Donc, 2 fois 1 heure par semaine. Fait qu'en tout, ils s'entraînent 5 fois par semaine.
Et c'est supervisé, l'heure au gym, ou si elles ne vont pas?
Oui. On a des kinésiologues qui nous font des entraînements spécifiques à nos équipes. Et ensuite, soit les entraîneurs ou les kinésiologues sont là pour superviser, et pour s'assurer que les entraînements sont bien faits. Puis, oui, c'est pas mal ça. En fait, on loue un gym de gymnastique 2 fois par semaine pour avoir le spring floor là, qui rebondit, le sol rebondissant en fait. Et, parce que c'est ça avec quoi on travaille en compétition. Fait qu'il faut reproduire le plus possible cette situation-là. Et, ça donne aussi plus de rebond pour la gymnastique. Là. Fait qu'on loue ça 2 fois par semaine, puis l'autre fois, on est à l'université.
Et puis c'est où que vous louez? C'est pas inscrit, c'est-tu dans la ville de Sherbrooke?
Oui, le gym, ça s'appelle
Char Gym. Char. Oh, et cheerleading, Chair Gym.
Oui, mais eux, ils font vraiment du tumbling, ils font vraiment de la gymnastique.
OK, cool. Puis maintenant, comment est-ce que fonctionnent les compétitions et résultats? Parce que moi, je dois t'avouer que je suis passionné de sport, je vais sur le site du RSEQ, puis quand je regarde les trucs, là, FCQ, Adrénaline, At Montréal, Sainte-Claude-Robillard, là, je vois des pointages avec des virgules. Je comprends pas. J'imagine que là-dedans, il y a un peu de subjectivité. Comment est-ce que ça fonctionne, les résultats, en fait?
OK. Les résultats ou la compétition, comment ça se
déroule? Les deux. On va commencer par la compétition.
OK. Ben, en fait, les athlètes arrivent, on les inscrit, sont déjà inscrits, mais on leur dit que tout le monde est là. OK. On est arrivé. Puis, dans le fond, l'horaire est sorti en général 2 semaines avant. Donc, on sait à peu près à quelle heure on va performer. Ça va par bloc. Les blocs sont généralement divisés soit par catégorie ou par niveau. Ça dépend des compétitions. Les niveaux au cheer, ça va de niveau 1 à 7. Universitaire, on est niveau 7.
C'est meilleur?
Ben, c'est pas meilleur. C'est juste, tantôt, je te parlais de progression d'éléments. Niveau 1, c'est plus des éléments de base. Puis le plus ça va par niveau, plus on ajoute des éléments. Puis en niveau 7, c'est juste les éléments plus complexes. Ben, je dirais même pas plus complexes, là, c'est juste vraiment différent. C'est ça.
Donc, juste pour nos auditeurs, si une équipe de niveau 7 compétitionne contre niveau 1, c'est sûr que niveau 7 va remporter la chose.
On peut pas compétitionner entre niveaux.
Ah, OK. Mais si ça se faisait, mettons. Le niveau 7?
Ça serait pas comparable.
Ah, ça serait pas comparable, OK.
Non.
C'est bon.
Parce que c'est pas les mêmes éléments du tout. Fait que, tu sais, toutes les équipes niveau 1 vont être dans la même division, donc compétitionner une contre l'autre versus tous les niveaux 2 ensemble, niveau 3 ensemble, niveau 4. Mais écoute, si on embarque là-dedans, on a pour 3 ouais. jours à t'expliquer le système de niveau puis de catégorie toute la vie, parce que là, t'as les équipes juste de filles, t'as les équipes co-ed, t'as les équipes avec tumbling, t'as des équipes non-tumbling. Ça peut aller loin.
Répète-nous, c'est quoi tumbling encore?
La gymnastique.
OK, OK, c'est bon.
Donc, c'est ça. Fait qu'on arrive, on sait à peu près à quelle heure qu'on passe. En général, une heure avant, on commence à visualiser, faire notre routine dans le vide, juste se mettre dans l'atmosphère de compétition. Puis, quand on arrive à la section pratique de la compétition, en fait, c'est divisé soit en quatre parties en général. Tu as une section échauffement, ensuite, tu as une section stunt où tu as 2-3 tapis pour pratiquer tes éléments de stunt à ce moment-là. Après ça, tu as une autre section qui est pour la gymnastique. Fait que tu as le tapis avec le rebond où est-ce que les gens peuvent juste pratiquer leur ligne de tumbling. Puis ensuite, tu as un mat complet. Le mat, c'est la surface de compétition. Fait que c'est 9 tapis un à côté de l'autre. Puis, dans le fond, soit qu'on fait notre routine dans le vide encore avec la musique, ou certaines personnes aussi aiment mieux toutes faire leur routine avant d'aller leur faire sur le mat de compétition. Sinon, il y en a qui disent « Ah, ben ça a moins bien marché pendant la pratique, fait qu'on va la refaire ici. » Mais en gros, c'est juste c'est la performance de A à Z sur la musique à celui-là. Puis après ça, on s'en va sur le mat de compétition où est-ce que nous autres, on appelle ça « full out ». Fait que tu fais ta routine de A à Z avec tous tes éléments dedans. Puis c'est ça qui est jugé, en fait.
OK, excellent. OK, très bonne explication. puis tu viens de le mentionner, musique. Est-ce qu'il y a tout le temps de la musique dans les…
Ouais. OK. Ouais, il faut, parce que c'est comme ça que les gens se repèrent. Parce que c'est comme en danse, là, ça va sur des 8 ans. Fait, avec la musique, ils sont capables de se repérer.
Est-ce que c'est qui choisit la musique? C'est vous?
C'est nous. C'est les coachs. Il y a plusieurs compagnies qui font des mix de cheer. On voit notre routine avec nos 8 ans, puis nos éléments, puis eux sont capables de faire des effets.
OK, fait que c'est pas, vous prenez une chanson de Rihanna, vous l'aimez, vous la mettez, là. C'est plus compliqué que
ça. C'est quand même assez laborieux comme processus pour la musique, là, surtout que ça devient un thing.
C'est bon, on en apprend. Puis je regarde, il y a la première place de chaque compétition a un nombre de points. Donc je regardais la dernière, la C1. C'est 10 points pour le gagnant, en deuxième c'est 8, puis la C4, ben c'est 40 points, puis le deuxième c'est 32. C'est un nombre de points fixe.
Oui, mais ça, c'est à l'universitaire. Dans le civil, ça fonctionne pas comme ça. Puis dans le fond, à l'universitaire, c'est pour la bannière RSEQ.
Oui.
Dans le fond, vu qu'on a 4 compétitions, la première vaut moins de points, vu que c'est la première dans la saison. Fait qu'en général, les équipes ont une routine diminuée avec des éléments moins difficiles parce que, bon, on n'a pas eu 8 mois pour pratiquer. Puis plus ça va, plus elle vaut beaucoup parce que plus on se rapproche de la fin de la saison.
Oui.
Fait que quelqu'un qui est arrivé premier à la première compétition pourrait arriver deuxième, puis après ça, deuxième encore, puis premier. Puis là, selon les points accumulés à chaque compétition, c'est ce qui détermine qui a la bannière à la fin.
Ouais, OK, je comprends. Puis je vois que l'année dernière, ça se passe Centre-Claude-Aubière-Montréal, Palais des Congrès à Québec, Trois-Rivières-Mauricie, puis à Lévis, au Centre des Congrès. Donc, il y a du déplacement à faire, puis ça se passe jamais chez vous à Sherbrooke ou à Lennoxville.
Non, en fait, le RSEQ essaye d'aller aux extrémités. Puis, tu sais, c'est sûr, il essaie de plaire à tout le monde, là. Mais c'est pas possible. Puis, tu sais, Trois-Rivières, c'est le fun. C'est à peu près au centre de tout le monde. Là. C'est, mm-hmm. c'est le plus central. Puis sinon, ben, on va à Montréal, puis on va à Québec, surtout parce que c'est là que la Fédération de cheerleading organise ses compétitions, puis nous, on se rend à ces événements-là. Fait que c'est, nous, on est dans le circuit scolaire, mais on fait des compétitions civiles.
Okay.
Fait qu'il n'y a pas juste nous dans la compétition, il y a aussi des équipes civiles.
Puis une compétition, ça dure une journée?
Pour l'universitaire, oui.
OK.
Y a des équipes de niveau mondial qu'eux, ils font sur 2 jours. Fait qu'ils ont une routine par journée. Nous, c'est 2 fois dans la même journée.
Okay.
Pour éviter les déplacements puis
les coûts.
Les coûts d'hôtel puis toute l'équipe. Fait qu'ils essaient de nous mettre dans la même journée. Puis on apprécie vraiment à chaque fois qu'ils sont capables de le faire.
Ben oui, non, c'est sûr, c'est tout à fait compréhensible. OK, fait que je regarde le classement de l'année dernière. J'ai vu, bon, c'est ça, premièrement, je regarde le classement des championnats, ça existe depuis 2010-2011. Montréal l'a gagné tout le temps ou presque, sauf en 2020, 2019, puis 2012 à 2014. Donc, c'est eux le powerhouse en cheerleading, j'imagine. Pourquoi est-ce que c'est difficile? L'année dernière, Bishop s'est terminé dernier, puis je suis sûr que c'est pas de ta faute à toi, là. Mais pourquoi est-ce que Bishop a de la difficulté à rivaliser avec les autres programmes?
OK. en fait, je vais partir du début. Je peux pas parler pour les années où est-ce que j'étais pas là parce que je suis pas au courant de leur situation. Je sais juste que avant 2019, Bishop, l'équipe de cheer était considérée comme un club et non comme une équipe varsity, qui est financée par le département athlétique puis qui est soutenue par. C'était run by student for student.
Ouais.
Fait, les coachs c'était des athlètes puis c'était aussi des étudiants. Fait que c'est ça. C'était moins organisé sur une grande échelle, je pourrais dire, de ce que je sais. À partir de 2019, ben là, on est rendu une équipe varsity, ce qui est bien parce qu'on a de l'aide du département, on a plus de ressources, on est capable de faire plus de choses. Mais là, le COVID a frappé, fait qu'on a été coupé. Moi, je suis rentrée en 2020, en octobre. Puis, une saison de cheer, en général, ça commence fin juillet, début août. Okay. Ça finit en avril. Okay. Fait que moi, je suis arrivée en octobre. Puis, techniquement, s'il n'y avait pas eu de COVID, notre première compétition était en novembre.
OK.
Fait qu'on a été chanceux, entre guillemets, qu'il n'y ait pas de compétition en novembre, nous, personnellement, juste parce que ça nous a donné plus de temps pour nous préparer. Puis, moi, à m'adapter à la nouvelle équipe parce que j'avais jamais coaché en anglais, puis j'avais, tu sais, là, c'était nouveau, j'étais toute seule en tant qu'entraîneur. Fait que, tu sais, c'était beaucoup en même temps, mais on a réussi. Fait qu'on est super contents. On a réussi à donner une performance qui était très respectable. Puis là, fait que ça, c'était ma première année. Deuxième année, il y a eu un bon step de prix, là. Tu sais, j'ai eu plusieurs bons commentaires, autant de gens de la fédération que d'autres athlètes, que d'autres entraîneurs qui m'ont dit « good job, on voit l'amélioration ». Fait que c'est un processus. Ça arrivera pas du jour au lendemain. On est une plus petite université. Comme j'ai déjà dit, nous, nos athlètes viennent d'un peu partout au Canada. Fait on n'a vraiment pas le même bassin d'athlètes que l'Université de Montréal, l'UQAM, Laval, même Sherbrooke, qui vont chercher beaucoup d'athlètes qui ont déjà fait des niveaux mondiaux, donc qui ont déjà beaucoup d'expérience. Nous, ces athlètes-là, il faut aller les chercher dans d'autres provinces parce qu'on est une école anglophone. Fait que ça attire pas nécessairement beaucoup de francophones de la région. Fait que ça, c'est un défi pour nous, mais on s'adapte vraiment, tu sais, tranquillement, pas vite, là, avec les années qui passent, puis avec moi aussi, qui sais de plus en plus ce que je fais, là, tu sais, considérant toute l'administration, puis les aspects qui étaient nouveaux pour moi. Mais là, cette année, on a vraiment une belle équipe de coachs, on a vraiment des bons athlètes, on est vraiment excités de voir qu'est-ce que l'année va nous réserver. Fait que, tu sais, je te dirais, on gagne pas parce que on est en développement.
En développement, c'est ça. Nouveau programme, coach c'est récent, petite université. Bishop a pas beaucoup de titres. D'ailleurs, là, au basketball, je pense qu'ils ont fait la finale l'année dernière. Au football, ils jouent avec l'Atlantique.
Ouais.
Donc c'est moins difficile que Carabin Rougeau.
Puis
soccer féminin, ils rushent.
C'est différent pour chaque équipe, mais tu sais, puis je considère que le circuit universitaire au Québec est extrêmement fort. C'est ce qui rend le circuit aussi excitant à regarder parce que à chaque année, c'est comme, crème, OK, là, eux autres, ils sont forts là, cette année. Puis là, tu dis, Carabin, il joue fort. C'est vrai qu'ils jouent fort. Ils sont excellents dans ce qu'ils font. Les coachs sont exceptionnels. Mais tu sais, je pourrais dire ça pour toutes les autres universités parce que tout le monde sait ce qu'ils font. Puis ça rend le circuit super fort. Fait que c'est des routines super le fun à regarder. Pour le recrutement d'athlètes au Québec, c'est vraiment le fun parce que les gens sont comme « je veux faire partie de ça, je veux faire partie de l'élite du cheer universitaire ». Fait que tu sais, on vise vraiment de faire partie de l'élite autant que Carabin, que Rouge et Or, que Vert et Or, puis l'UQAM, puis Trois-Rivières.
C'est ça, pour faire partie de l'élite éventuellement. Ben écoute, je vous le souhaite à vous puis à votre équipe de finalement. Est-ce que cette année vous êtes donné un objectif de classement, comme par exemple de finir cinquième, quatrième, ou vous dites on fait notre best puis that's it. Ou il y a un objectif en termes là de classement général.
Je veux pas le divulguer mon objectif. Okay.
C'est bon. Fait que
je veux pas me jinx.
C'est bon. Non, c'est bon. C'est
on en a un. On en a un, je te dirais juste pas c'est quel.
OK. C'est bon. Il n'y a pas de problème. premier tournoi cette année, première compétition, c'est où et quand, si les gens veulent aller vous voir?
C'est le 26 novembre. C'est Adrénaline, puis c'est à Montréal. Toutes les informations vont sortir plus près de la compétition. C'est ça.
OK, excellent. Puis, l'année dernière, par expérience, une compétition de cheerleading, est-ce que les gens viennent voir ça? Est-ce que c'est plein? Comment ça se passe exactement? Puis, les endroits où est-ce que vous allez, c'est des endroits spécifiques pour ça. C'est ça?
Oui. En général, c'est des arénas ou c'est des centres sportifs ou des palais des congrès ou
okay.
Des endroits qui ont des plafonds hauts puis beaucoup d'espace. Oui, on a beaucoup de fans, en général dans la communauté du cheerleading. Nous, considérant qu'on est une toute petite université, que les parents ne viennent pas nécessairement du Québec, qu'ils sont loin, on se considère vraiment chanceux d'avoir des parents qui font la route pour venir voir leurs jeunes et leurs athlètes. Écoute, on a eu du monde qui venait du BC, on a eu du monde qui vient de l'Ontario, puis les parents viennent quand même. Fait que, tu sais, c'est super le fun pour leurs jeunes parce que les parents sont vraiment investis. Puis tu sais, il y a toutes les autres athlètes aussi qui, quand ont la possibilité, en général, viennent s'asseoir dans la foule puis encouragent les autres équipes. C'est vraiment un sentiment de communauté dans le cheer. Puis c'est pas parce qu'on n'est pas dans la même équipe que je veux pas que tu réussisses. T'sais, moi, mon objectif, c'est de gagner contre la meilleure version de tout le monde. Parce que si tout le monde chute puis que je gagne juste parce que moi, j'ai réussi à pas chuter, ben j'ai pas vraiment gagné. T'sais, j'ai juste été la meilleure d'une mauvaise journée. On veut tout le temps encourager tout le monde juste parce que t'sais, on veut que tout le monde fasse le mieux pour savoir qui a vraiment gagné, puis qui a vraiment eu les meilleurs éléments, puis qui avait vraiment la meilleure technique, plus que j'ai gagné parce qu'eux sont tombés.
OK, donc il y a un sentiment de solidarité, de communauté dans le cheerleading, peu importe l'équipe.
Oui, okay. Ouais, C'est vraiment le fun de voir tout le monde s'encourager. Il y a des petits rituels de compétition que les jeunes ont commencé. Ils prennent des épingles à linge en bois, puis ils écrivent comme « bonne chance », puis leur nom d'équipe derrière, puis ils mettent ça sur des sacs à dos de d'autres athlètes, de d'autres équipes. On voit les gens s'encourager quand ils sortent d'une compétition ou quand ils rentrent vers une compétition, puis c'est comme « good job, let's go, ça va bien aller ». C'est ce qui rend le sport tellement le fun, parce que tu es en compétition avec la foi que tu as faite d'avant, pas avec personne d'autre. C'est pas comme au foot que c'est une équipe versus une équipe puis ils se battent en même temps. C'est comme moi, je vais faire du mieux que je peux, puis si j'ai fait mieux que toi, je vais gagner. Point.
excellent. On en apprend ça. Je savais pas du tout cet aspect-là. Je pensais que c'était au contraire, là, que c'était.
Non. Il y a vraiment le gros des mauvaises impressions face au cheer, là, qu'il y a, l'atmosphère est un peu plus rivale ou. Mais moi, c'est pas ce que je ressens en compétition. T'sais, c'est sûr, il y a tout le temps des équipes un peu plus qui veulent plus gagner que d'autres, puis un peu plus rivales que d'autres. Ou il y a une petite rivalité entre ces deux équipes-là parce qu'il y en a une qui est passée proche de gagner, puis finalement elle n'a pas gagné. Mais c'est jamais malsain, puis c'est jamais déplacé, à mon opinion, puis de ce que j'ai vu.
Oui, non, c'est toi l'expert ici, je te crois. All right, il nous reste 2 minutes 34 secondes avant que ça coupe. Donc, on va y aller vite fait. Est-ce que vous avez des championnats canadiens, comme dans les autres sports du RSEQ? Ou est-ce que vous déplacez...
Je pense que oui, là, mais je suis pas sûr.
OK, à vérifier.
Oui, à vérifier parce que... Puis là, j'ai l'air de pas connaître mes enfants, mais c'est juste parce que je me concentre
vraiment sur... Oui, c'est ça. Je pense pas que vous auriez été invité l'année passée, là. Je pense que c'est l'équipe numéro un qui...
Je pense que oui, parce que Laval a fait les championnats... Non, c'était les Panaméricains.
Panaméricains, OK. Bon, puis dernière petite question. Il nous reste une minute après sa coupe. Il va falloir finir ça. Tu vois le temps là, de se défiler. Oui. Pour Sève Janelle, est-ce qu'elle a des objectifs de carrière en cheerleading? Je sais pas, moi, entraîner l'équipe nationale américaine ou...
Je sais pas. En ce moment, je suis bien où est-ce que je suis. C'est des beaux défis. C'est pas quelque chose que je m'attendais à faire dans ma vie. Pour l'instant, je reste où est-ce que je suis. Puis peut-être un jour, on aura deux équipes à Bishop, une co-ed, une all-girl... peut-être qu'un jour, on aura notre propre gym sur le campus de l'université. On voit gros pour l'équipe parce qu'on veut ce qu'il y a de mieux pour les athlètes. Mais pour l'instant, je me focus sur mes athlètes à Bishop puis qui aillent la meilleure version de moi-même.
Excellent. Ben écoute, il nous reste moins d'une minute. J'en profite pour te saluer tout de suite. Et te remercier beaucoup d'avoir participé à cette entrevue, Sève. Et je te souhaite bonne chance pour la saison.
Ben, merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était très agréable.
Ça fait plaisir. Merci et bonne journée.
Bonne journée.
Ciao. Voilà, donc c'était l'entraîneur-chef de cheerleading de l'université Bishop's en Estrie, hein, dans les cantons de l'Est, les cantons de l'Est, Sève Janelle. Donc on la remercie beaucoup pour l'entrevue. On essaie d'avoir une entrevue ici à chaque semaine. On avait la semaine dernière Patrick Mondo Soccer. On a eu avant ça Monsieur Durnick, coach à Trois-Rivières. Donc la semaine prochaine, ça sera quelqu'un d'autre. Et c'était très intéressant puisque des entrevues sur... des coachs de cheerleading, ça ne court pas les rues. Et encore une fois, on remercie beaucoup Sève Janelle. Donc c'est presque la fin de l'émission, on va y aller en musique et après ça on va revenir avec le mot de la fin, une petite nouvelle d'actualité là pour les étudiantes athlètes de U-Sport qui ont une petite opportunité pour devenir entraîneuses et pour coacher des équipes de hockey féminin et masculin. Donc on y va avec Amé Laoni plus cassé. Ensuite de ça, ce sera Chariot de Cowboy avec Je suis les filles. Donc on écoute ça et on revient.
C'était l'excellent chanson Chariot de Cowboy de Jésus les filles. Jésus les filles, pardon, je l'ai prononcé avec la prononciation espagnole en ce dimanche matin. Beaucoup d'énergie et peu d'énergie en même temps. Mais ça va, le ciel est bleu, il fait quand même beau, il fait pas trop froid, pas trop chaud. Donc on est content d'être ici avec vous. Deux petites minutes avant la fin de l'émission, juste vous rappeler que... Il y a un petit programme Hockey Canada et U-Sport ont lancé les 8 étudiantes athlètes choisies pour participer à la 3e cohorte du programme Entraîneuses en herbe pendant les saisons 2023-24 et 2024-25. Donc, c'est une opportunité pour des joueuses universitaires de pouvoir garder et développer un intérêt pour devenir entraîneuse en chef d'une équipe de hockey, qu'elle soit masculine ou féminine. Donc, les 8 joueuses, on va les nommer, c'est Alexis Anonek de l'Université York en Ontario, Amy Fecteau de Concordia ici à Montréal, Lindsay James de l'Université Mount Royal, Madison Laberge de l'Université Nipissing en Ontario, Isabelle Lajoie de l'Université de l'Alberta, Sophie Lalor, Université de la Saskatchewan et Sarah Maud Lavoie, Université McGill ici au Québec et Shiro Suzuki, Université de Guelph. Je cite, nous sommes ravis d'accueillir ces 8 étudiantes athlètes accomplies au sein du programme Entraîneuses en herbe et d'avoir le plaisir de collaborer avec elles au cours des 2 prochaines saisons, a commenté Marin Ecox, vice-présidente du hockey féminin à Hockey Canada. L'initiative Entraîneuses en herbe est un programme important pour appuyer et développer la prochaine génération de meneuses au hockey et nous remercions le personnel entraîneur de U-Sport ayant proposé la candidature de ces athlètes de talent parce qu'on le sait là que le hockey féminin va prendre de plus en plus de place. On a maintenant une équipe de hockey professionnelle dans la ville de Montréal. On a une petite ligue à 6 équipes. Et donc, on pourra en reparler dans une des prochaines émissions, même si c'est pas du sport universitaire. On peut quand même l'effleurer dans une prochaine émission. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. C'était Wissam Bensta au microphone. Merci à Sèvres Janel pour son entrevue, l'entraîneuse de cheerleading de l'Université Bishop. Et nous, on se revoit la semaine prochaine. Merci et au revoir.